Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Et la prière, c'est quand même, au point de vue croyant, au point de vue spiritualité, quelque chose de très important. Et parfois, et surtout peut-être dans le passé, ça n'a pas toujours été très bien défini, et actuellement, c'est peut-être pas toujours la prière très bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez avoir et nous donner une introduction rapide, une définition rapide sur prier ? C'est quoi ?
Prier, c'est s'approcher de Dieu. Voilà, une définition rapide. Prier, c'est par une phrase formulée à haute voix ou bien par un soupir intérieur, c'est être dans cette ouverture, dans cette relation, dans cette proximité à Dieu qui nous amène à concrétiser véritablement une relation. De la même manière que, étant marié, je parle à ma femme, ou je la regarde, ou je perçois sa présence et où elle me perçoit, toutes ces attitudes sont des concrétisations de notre relation. De la même manière, la prière est un ensemble d'attitudes personnelles qui concrétisent la relation que nous avons avec Dieu.
Alors ça amène souvent toute une série de questions. Donc on vient de voir que c'est en fait communier avec Dieu et entrer en relation avec lui, pour commencer. Mais alors souvent on peut prier et puis il va se poser dans des questions. Alors quand prier, comment prier? Mais là, avec la description que vous venez de faire à votre couple, je crois que c'est un exemple magnifique pour bien comprendre, regarder, écouter, ça, vous avez déjà abordé un peu les réponses pour cette question-là. Alors, où, pourquoi prier? Et Dieu va-t-il accepter ou va-t-il refuser ce que je dis, ce que je formule? Est-ce que nécessaire? Pour qui? Alors ça, c'est toute une série de questions qu'on veut, disons, à aborder lorsqu'on cherche à réfléchir sur la prière. Est-ce qu'elle peut être intéressée? Je demande qu'il pleuve parce que mon jardin est trop sec. Je prends un exemple bête, mais c'est très simple. Cherche-t-on une réponse qui nous convient? Est-ce que je vais comprendre le dénouement de ma prière ou pas? Surtout si ça ne me satisfait pas. Est-ce normal d'attendre un résultat de quelqu'un d'autre? Oh ben, je n'arrive pas à m'en sortir, je prie Dieu, Dieu va envoyer la solution par la poste. Alors, n'est-ce pas non plus facile, tout simplement, et pour aller Tout simplement de confondre la prière souvent avec une formule magique.
Commençons par la première question.
Oui.
Vous avez dit où, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, la Bible nous appelle à prier en tout lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en tout lieu? Ça veut dire que tout lieu est un lieu de prière. Ça veut dire que Dieu, qui est esprit, est omniprésent. Et moi, je n'ai pas besoin d'être quelque part pour prier. Est-ce que je viens de dire par là que je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier? Non. Non, c'est bien d'aller à l'église, mais ça veut dire que je ne suis pas. Si je ne suis pas à l'église, je peux quand même prier.
À l'église, ça prend une autre dimension.
Voilà. Je peux rencontrer Dieu quel que soit l'endroit où je suis. Et donc le lieu, on peut dire, n'a pas d'importance particulière, ou on pourrait dire autrement que tout lieu est important.
Donc, en répondant à la question où, vous avez presque répondu à la question quand. Si vous priez n'importe où, je suppose que vous priez n'importe quand ou tout le temps.
La Bible dit de prier sans cesse. Mais quand je dors, je ne prie pas.
Oui,
Et
d'accord.
donc, je crois que l'expression prier sans cesse, c'est une expression qu'on appelle hyperbolique, c'est-à-dire exagérée. Prier sans cesse, ça veut dire de prendre le temps dans ma journée de prier. Est-ce que je fais les choses dans une attitude de prière? Personnellement, je pense que les enregistrements que nous les faisons dans une attitude de prière. Autrement dit, nous avons cette demande à Dieu de nous protéger, de nous accompagner, de nous conduire, de nous éveiller dans ce que nous faisons, et je ne doute pas qu'il le fasse. Alors, vous avez parlé justement de qu'est-ce qu'il faut demander. Il y a des expressions dans l'épître de Jean, par exemple, au chapitre 5, premier épître de Jean, où il nous est dit, si nous demandons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute et nous avons les choses que nous lui avons demandées. Ce qui est assez vertigineux. Hein, on pourrait se dire, mais alors effectivement, en juillet-août, alors que en Provence, il fait une grande sécheresse, si je prie Dieu pour que mon jardin soit arrosé, est-ce que mon jardin va être arrosé? Alors, j'ose suggérer que à ce moment-là, peut-être que Dieu me dira, écoute, il n'était pas interdit de prendre ton arrosoir et d'aller arroser avec l'eau que je te donne, hein, etc. Il ne t'est pas interdit de faire un forage, hein, etc. Il ne t'est pas interdit de faire du compost, ce qui fait que la terre, avec le compost, est plus humide, etc. Il ne t'est pas interdit de faire une fontaine, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans la fontaine et de mettre un moteur qui va utiliser l'eau avec un système de va-et-vient avec une faible consommation pour humidifier l'ensemble. Donc je crois que les réponses de Dieu à notre prière sont variées et que nous sommes peut-être dans un rapport, comment dire, critique avec Dieu, où nous voudrions avoir une réponse qui va strictement dans le sens de ce que
Dans
nous
l'autre
voudrions
sens,
ensemble
voilà, bien sûr,
entendre.
et tout de suite.
Et tout de suite.
Alors, c'est certain. Alors, donc, autre question, effectivement. Donc, le pourquoi, on y a un peu répondu, là. Qu'est-ce que c'est qui va justifier la prière, en fait? Je trouve que c'est très vague, très, oui, à la fois très étendu. Je comprends très bien. Il faut demander ce que Dieu, à la limite, parce que ce que Dieu veut qu'on lui demande. Mais c'est pas trop difficile, ça, à voir.
Une des choses que la vie m'a apprise, c'est que je ne suis pas en relation avec quelqu'un à qui je ne parle pas. Mais parler, c'est plus que dire ouvertement et à haute voix des mots. On peut très bien dire des mots à quelqu'un, mais ne pas lui parler. Parce que parler,
Ça
c'est
vient pas du
s'impliquer.
cœur.
Hein? Parler, c'est se faire connaître. Dans mes états d'âme, c'est se risquer, parler. C'est parler de soi, c'est parler des choses, mais quand on parle des choses, on parle de soi. Et je crois que prier, c'est se risquer avec Dieu, c'est ouvrir un domaine dans lequel la relation avec Dieu est une relation qui est vivante. et dans lequel je m'ouvre à Dieu, je lui, je, c'est un peu curieux de dire ça dans la mesure où Dieu sait tout, mais Dieu pourrait tout savoir sans que je le veuille. Alors qu'au contraire, moi je m'ouvre à Dieu et je suis dans cette démarche avec lui dans laquelle non seulement je lui dis ce que je suis, mais j'écoute aussi ce qu'il me dit.
Ça, vous venez soulever un problème supplémentaire, disons, c'est que pourquoi prier puisque Dieu effectivement connaît tout et sait ce qu'il faut. Donc on pourrait se dire, je ne prie pas, c'est lui qui a qu'à mener le jeu, moi je ne bouge pas. Mais alors je comprends que ça nous couperait de la relation avec Dieu.
Ça serait une relation forcée.
Ce serait une relation forcée et un détachement en fait, si vous voulez, de Dieu. Donc il faut, comme un enfant se confie à son père, peut-être donc avec humilité et docilité, parler à son père. C'est la réponse, je pense, là. Ouais. Alors donc il y a aussi évidemment donc le comment prier. On va dire, si on prie sans cesse, presque tout le temps, en fonction de ce que l'on fait, il y a quand même matériellement parfois des solutions. Quand on prend par exemple l'exemple de Moïse qui, lorsqu'il assiste à une bataille, est âgé et donc il va donc soulever ses bras pour que protéger son armée, n'est-ce pas? Mais bon, c'est là une attitude, il y a une position. Mais elle est assez inconfortable, donc on l'assied. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème, disons, matériel qui se pose. On lui soutient les bras, parce que chaque fois qu'il les rebaisse, qu'il n'en peut plus, ses troupes perdent la bataille. Donc, il y a un lieu, il est sur une montagne, on lui tient les bras, on le fait asseoir. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut que quand je prie, quelqu'un me tienne les bras, ou que je m'en fais asseoir sur un caillou. Mais enfin, je veux dire, il y a quand même tout un environnement qui est bien propice. À un moment donné, on dit de monter dans la chambre haute, donc s'isoler. Donc il y a plusieurs façons. On peut danser. David, je crois, chantait dans le temple et danser aussi. Donc nous, comment peut-on? A-t-on un processus à respecter?
Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme le verrou. Autrement dit, la prière ou la concrétisation d'une relation personnelle et véritable avec Dieu ressort complètement de l'intimité. Et si on n'est pas dans l'intimité, alors il y a quelque chose qu'on perd en qualité. Donc le comment, je crois que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, être sur les lieux élevés, c'est-à-dire être moralement dans une situation dans laquelle on est transparent avec Dieu, on est vrai, on est à son écoute, on est disponible, et autant sur le fond que sur la forme, je ne crois pas qu'il y ait d'indication particulière. Quand Jésus dit dans le même sermon sur la montagne, répondant à ses disciples qui lui disent, enseigne-nous à prier, il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, etc. Je crois que il ne faut pas perdre de vue que cette prière, c'est le béaba de la prière. Autrement dit, nous devrions tous savoir prier de manière beaucoup plus libre que le Notre Père. Le Notre Père, c'est quelqu'un pour quelqu'un qui ne sait pas prier. Et quelqu'un qui sait prier, il va avoir une possibilité de se raconter ou d'écouter Dieu dans la prière beaucoup plus grande que celle que notre Père confère.
D'autant plus que cette formule, il peut très bien ne pas la comprendre. Il passait toute sa vie à prier, disons, et réciter le Notre Père sans bien saisir ce que ça veut dire. Que notre volonté soit faite, au ciel et terre, il peut très bien ne pas très bien comprendre ce que ça veut dire. Alors justement, avec la prière, et c'est un risque, puisqu'on est dans les comment, il y a aussi la récitation. On récite des psaumes qu'on a appris par cœur. Chez les catholiques, on récite un chapelet, on récite le Notre Père. D'ailleurs, c'est un cantique. Enfin, je veux dire que là, toutes les confessions sont à peu près dans la même situation. La prière peut devenir un formalisme, une espèce de récitation où il n'y a plus de cœur.
C'est pour ça qu'on peut toujours réciter avec cœur.
Oui, on peut, bien sûr. Enfin,
Déjà,
là, je souligne
et il faut qu'on s'en
les
souvienne.
problèmes.
Personnellement, on m'a jamais appris à réciter. Donc, je fais partie d'une église dans laquelle on ne dit pas notre père.
Jamais.
Jamais. Donc la question de la récitation ne se pose pas et nous pratiquons tous la prière spontanée, non apprise, et dans laquelle on se place devant Dieu en vérité et de manière opportune. C'est-à-dire, en fait, on dit ce qu'on pense au
Ressort,
moment où on et
on
ce
le
qu'on
dit.
ressent, voilà, au moment où on le
Oui,
dit.
oui, oui. Mais alors, il y a un détracteur qui pourrait vous dire, ce n'est pas moi, parce que je suis contre la récitation aussi des prières mécaniques, et ainsi de suite, qui, à mon avis, ne va pas apporter grand-chose à Dieu. Mais vous dites spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, alors là, de dire des bêtises? Surtout que c'est public, si je comprends bien. Quand c'est tout seul dans votre chambre, à la limite, c'est pas grave. Dieu doit peut-être rire un bon coup, ça va. Mais là, quand c'est public, c'est un peu plus gênant, non?
Quand moi j'ai des enfants, et vous aussi, et quand nos enfants nous disent des bêtises, est-ce que pour autant ils cessent d'être nos enfants? Non.
Certainement pas.
Et donc quand ils disent des bêtises, c'est l'occasion d'en parler, mais c'est très touchant de les entendre dire des bêtises, parce qu'en fait nous sommes plus âgés que nos enfants, nous savons plus de choses qu'eux, et donc les entendre dire des bêtises, c'est l'occasion de faire vivre cette relation dans laquelle des choses vont être dites. Donc, dire des bêtises, c'est pas un problème.
Oui, mais c'était l'aspect public dans les églises, comme l'assemblée comme la vôtre.
Voilà,
C'est
mais
ça qui me
dans le
gênait.
lieu public, quand des bêtises sont dites, ça devrait ouvrir justement à un dialogue dans lequel les bêtises nous font progresser et aller
D'accord.
plus loin.
Là, vous me rassurez. Effectivement. Donc, on avait dit dans le pourquoi et le comment. Donc, car on l'a vu aussi. Et donc, il y a quand même plusieurs sortes de prières. Si je prends la Bible, si j'ouvre les psaumes, je vois qu'il y a, ils sont même parfois dans certains ouvrages classés en fonction du but. Alors, il y a la louange, la reconnaissance, le remerciement, l'adoration, la recherche de l'intuition, il y a la relation personnelle qu'on veut créer, c'est la confession de son péché, c'est, disons, il y a tout un éventail de possibilités, et presque des formules, hélas, disons, qui correspondraient à chaque cas. Alors c'est fait exprès pour que chacun s'y retrouve.
Oui, et
Les auteurs des psaumes, c'était
ça
quand même
correspond aussi aux différentes situations de notre vie,
là.
où ici on va dire Dieu, j'aime ta création et je t'en remercie, je l'apprécie, mais par ailleurs on pourra dire Dieu, je suis en train de couper un arbre et je ne sais pas très bien m'y prendre et je viens de me faire mal et je te demande ta protection. Par ailleurs, on pourra dire, je te prie pour mon collaborateur qui, lui, ne sait pas très bien couper les arbres, moi je sais les couper, et je te demande que tu nous protèges. Donc, je crois qu'il y a différentes formes de prières qui correspondent toutes à des différences de situation, et c'est très bien comme ça.
Et vous pensez que c'est voulu?
Oui. Thank you.
certains disent je ne sais pas prier, parce qu'il leur échappe que c'est tout simplement une relation intime avec Dieu. Alors qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Que c'est pas vrai.
Que c'est pas vrai. Oui.
Qu'ils mentent.
Je vais pas dire jusque-là quand même. Ils sont inconscients peut-être,
Ouais.
mais pas mentir, c'est pas un
Ouais.
mensonge. Donc il faut qu'ils s'adressent à Dieu naturellement.
Ouais.
Voilà, c'est toujours cette fameuse relation, comme on l'a dit, bien entendu. Et chaque fois qu'ils en ont besoin, et n'importe où, ils peuvent le faire. Hein.
Avec l'idée que quand on s'adresse à Dieu naturellement, il y a quelque chose qui relève de l'engagement personnel. Par exemple, si je dis à Dieu, les circonstances que je traverse sont dans ta main, il y a un moment donné où j'ai exprimé que je suis d'accord avec lui. Hein, et
Oui, on le
que,
reconnaît.
voilà, je reconnais qu'il a les circonstances dans sa main, et donc le fait qu'il y ait la catastrophe de Fukushima, qu'il y ait la crise boursière, ou bien tous les troubles qu'on peut connaître au niveau politique, eh bien les circonstances sont dans la main de Dieu. Autrement dit, je m'engage dans ma vie personnelle avec Dieu à reconnaître ces faits, et si je lui dis cela, eh bien, en le priant, alors j'en tiens compte.
Oui. Alors donc, on remarque quand même que je crois que pour la prière, quand on manque d'inspiration, c'est le cas de le dire, est-ce que l'esprit n'intervient pas? Hein, je vous dis, celui qui dit, je ne sais pas prier, s'il fait le vide, il se met à la disponibilité, est-ce que effectivement, donc, l'esprit ne va pas intervenir, ne va pas l'aider à prier, à s'adresser à Dieu? À la limite, c'est son travail, entre guillemets, à l'esprit.
Je crois que, tout à fait d'accord avec ce que vous suggérez, Dieu est derrière toute chose, et Dieu, ainsi que le ministère angélique, nous aide à accomplir tout ce que nous avons à accomplir. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, hein, je crois que c'est le verset 26 et 27, il est dit que l'Esprit, intercède pour nous par des soupirs
Soupir
inexprimables.
inexprimable.
Donc il y a un véritable ministère de Dieu, de l'Esprit de Dieu, dans la prière, et ça devrait nous mettre très à l'aise pour dire ce qu'on a à dire, sans se poser trop de questions, savoir si on en dit trop ou pas assez, ou comme ceci ou comme cela. Je crois qu'il faut y aller de tout notre long et vraiment être transparent avec Dieu, le plus possible.
Donc le soupir inexprimable, c'est quelque chose que l'on ressent, mais qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas formuler,
C'est
mais
ça.
Dieu connaît.
Oui.
Parce que comme tout à l'heure, on l'a dit qu'effectivement, dans la prière, on ne devait pas obligatoirement réciter quelque chose, mais que l'on peut prier tout le temps, je crois que la prière, c'est un état. Hein, ce n'est pas un acte, c'est un état. On est en prière. Donc là, je crois que le Seigneur peut comprendre effectivement ce que l'on veut. Et alors, Jésus, en fait, j'allais dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup prié. Effectivement, chaque fois qu'il va faire quelque chose, il se retire pour prier. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il va prier. Il a enseigné aussi aux apôtres le Notre Père, c'est la prière de base de l'Église, mais bon, c'est logique. Peut-être qu'il passait d'un monde ancien à un nouveau monde et que peut-être il a voulu leur apporter quelque chose de nouveau, hein, par rapport aux psaumes, par rapport aux cantiques qui se retrouvent dans la Bible. Alors, chaque fois qu'il y a un besoin, le Seigneur prie. Et si on peut en dire, il se retire dans un désert. Alors avant son baptême, il va prier. Hein, c'est Luc le 3:21. Avant de commencer tout service pour Dieu, il faut donc se mettre comme ça, faire le vide peut-être, c'est ça?
Je pense qu'il faut, un peu comme on marque le changement d'année par les anniversaires, on marque la place qu'on accorde à Dieu dans les moments importants par la prière. C'est vrai que dans ma famille, et étant le chef de ma famille, le responsable, avec ma femme, chaque fois que nous mangeons, nous prions. Chaque fois dans mon travail, chaque fois que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, pour autant que cette personne veuille le faire, je prie avec lui. Et je lui propose de prier. Je crois que c'est bien de marquer les événements importants par la prière. Il m'arrive souvent, quand je viens au bureau, à mon bureau à pied de la maison, que je prie en disant, Seigneur, voilà, ben je suis content de te remettre cette journée. ne sachant exactement ce qui va se passer, mais voilà, je suis content. Et j'ai fait souvent l'expérience que quand j'ai du mal à m'endormir, quand je prie, alors je m'endors. Parce que la prière est apaisante, parce qu'il y a quelque chose de conclusif,
Un bon remède
voilà.
à rappeler et à
Voilà.
conseiller, peut-être, effectivement,
Ouais.
et bien sûr. Alors, pour reprendre toujours l'exemple du Seigneur, face au choix de ses disciples, il va aussi, disons, prier. Il prie toute la nuit avant de prendre ses décisions. Donc, lui aussi, il a été quand même confronté à ses choix à prendre et demander à Dieu d'être éclairé.
Oui.
Hein?
C'est là où on voit vraiment que Jésus est un homme. Je vais pas dire comme nous, parce que je pense que c'est nous qui sommes comme lui. On a été fait à la ressemblance de Dieu. Et donc, comme il fait lui, nous devrions faire. Et lui nous montre qu'il y a des choses qui sont très importantes. Par exemple, au début de son ministère, il avait le choix de ses apôtres. Et parmi ses apôtres, il y a des gens dont il savait, hein, Judas qu'il allait le vendre, Pierre qu'il allait le renier, Thomas qu'il allait douter, Jacques et Jean qu'il voulait faire des choses aberrantes, hein, faire tomber la foudre sur des gens. En vertu de pouvoir qui leur a été donné, ce qui était aberrant. Et donc je crois que Jésus avait un peu cet inconvénient sur nous, qu'il savait les choses qui allaient arriver.
Ça pouvait être lourd,
Ça pouvait être
oui,
lourd. Et
effectivement,
donc il fallait qu'il ait son cap en disant,
oui.
voilà, en tant qu'homme et en tant que Dieu, je veux complètement aller dans ce cap-là et ne pas dévier d'une seconde.
Alors, un autre exemple, par exemple, à la multiplication des pains, Luc 9, 16, avant de prendre la nourriture, il rappelle évidemment, disons, que celui qui la donne. Donc là, disons, il y a un hommage, c'est un peu au repas, la prière que vous faites, certainement, c'est rappeler à Dieu que c'est lui qui donne le pain que vous allez partager dans votre famille. Alors, par exemple, à la transfiguration aussi, ça va le transformer. Il prie et il se transforme. Donc là, c'est un effet spirituel sur lui. Mais ça arrive à Jésus. Ça ne doit pas arriver à tout le monde. Peut-être que dans l'Église catholique, on a des cas comme ça de saints qui, par la prière, s'élever ou s'illuminer. Mais bon, là, c'est pas quand même un effet de la prière commun.
Personnellement, je pense que ce n'est pas la prière qui lui a donné cette apparence, que c'est dans cette situation-là, il fallait que Pierre, Jacques et Jean voient celui qui allait venir comme Messie et qui était dans toute sa splendeur de roi. Mais cela n'empêche pas que dans cette situation-là également, Jésus est matérialisé sa position d'homme et de Dieu par la prière. Mais si vous voulez, je pense que la prière ne nous confère
Pas obligatoirement ce
ne
résultat.
nous confère pas de résultat. La prière nous place dans une position qui est à la fois petite et grande. C'est-à-dire que dans la prière, je suis enfant de Dieu, donc je suis petit, mais je suis grand parce que je suis à ma place. Voilà.
Oui, et en fait, est-ce que Jésus prie et se transfigurait? En fait, est-ce que c'est pas le fait aussi qui veut montrer donc effectivement qu'il est Dieu, hein, qu'il n'est pas uniquement homme, ou à ses apôtres, mais est-ce que c'est pas en leur montrer aussi que par la prière, on arrivera à une certaine gloire? Est-ce qu'on ne peut pas en tirer un enseignement comme ça aussi?
C'est ça, gloire dans le sens de résultats, de manifestations, tout à
Final,
fait, oui.
oui.
C'est sûr que faire les choses sans vie de prière, c'est assez insensé, oui.
En fait, dans sa vie, c'est tellement très important que même tout son ministère va en dépendre. À l'institution de la scène, bien, l'établissement de la nouvelle alliance se fait dans une prière. Il prend le pain, le bénit, là aussi, donc les actes, pas de tous les jours, mais les actes aussi de relation avec Dieu, ça donne quand même du poids à ses actes et à ses paroles. Alors, bon, ensuite, quand même, il a eu peur, hein, il a aussi quand même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, c'est souvent mal interprété. On dit, ah ben oui, il s'est considéré comme un cri de désespoir, alors qu'en fait, Jésus récite là un psaume. C'est le psaume 22, je crois.
Oui.
Donc il prie jusqu'au bout, même dans des conditions, il n'oublie ni les psaumes, ni que son père c'est son père, et que c'est Abba. Ouais, cette analyse est juste là aussi.
Oui, je crois que c'est très beau de voir que Jésus exprime jusqu'au bout ce qu'il doit exprimer, c'est-à-dire ce qu'il vit, ce qu'il anime, et il va le faire avec la simplicité de l'humain, hein, et pour ça, il est un modèle pour nous. Je crois que quand il est crucifié, quand il est entre ciel et terre, quand l'obscurité vient sur Jérusalem à ce moment-là, alors que c'est entre midi et 3 heures, autrement dit le soleil est au zénith, et l'obscurité
Tout
vient,
fait.
hein, peut-être qu'il y a une éclipse à ce moment-là, hein, c'est possible, ou il y a en tout cas quelque chose qui est très 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 sombre, des gros orages. Personnellement, j'ai du mal à imaginer ce que Dieu fait homme à éprouver en prenant le péché à notre place.
Oui, là, évidemment, c'est difficile à
Difficile à
saisir
saisir.
avec nos capacités actuelles.
Mais les cris justement que Jésus-Christ pousse en montrent quelque chose et sont très touchants, me semble-t-il.
Oui, parce que quand il dit Père, si c'est possible, cette coupe s'éloigne de moi, c'est qu'on voit aussi quand même qu'il a un aspect tout à fait humain. C'est une dimension aussi importante. Alors, pour reprendre tout simplement encore des exemples, il y a la parabole du juge qui se fait prier longtemps. Donc ça veut dire que si on n'obtient pas satisfaction, si on insiste beaucoup, si on, ou il y a l'ami aussi qui frappe de nuit et qui dérange, disons que on a l'impression par cette parabole que bon, pour se débarrasser de celui qui prie et qui insiste, Dieu va l'accorder. Je pense que c'est quand même un peu gênant quelque part.
C'est un peu gênant, oui.
Moi je veux bien, hein, je vais insister, je vais insister, je vais insister, je vais l'obtenir. Mais bon, ça me gênerait quand même quelque part.
J'entends quelque chose d'un peu pas provocateur, pas dérisoire, mais un peu décalé dans la manière de Jésus de parler aux siens, avec ce qu'on appelle la parabole du juge inique ou de l'ami inopportun, qui est là d'une manière décalée pour montrer qui est Dieu, en disant, mais si l'ami inopportun reçoit ses 3 pains, alors combien plus Dieu vous donnera du pain à vous qui le demandez? Il dit ça pour encourager, justement, c'est dans cette section. Je crois que c'est en Luc 11 où les disciples disent enseigne-nous à prier, et il dit, mais rendez-vous bien compte que si on répond à des amis inopportuns, combien plus Dieu répondra à votre prière. Alors je crois que la réponse à la prière, c'est quelque chose de complexe, et personnellement, moi je suis peut-être quelqu'un qui ne suis pas assez dans le résultat, tellement je voudrais exprimer ma confiance à Dieu en laissant finalement à Dieu le soin de faire ce qu'il doit faire. Et je n'attends pas la réponse. Peut-être que je suis un peu en deçà de ce que je devrais attendre. Mais bon, par exemple, quand quelqu'un est en souffrance, on prie. Et puis après, on sait qu'on a fait du chemin, on sait qu'on a demandé des choses au Seigneur, on sait que c'est que finalement on a fait ce qu'on devait faire, alors on attend avec sérénité que Dieu donne, mais on n'est pas tellement inquiet de ce qu'il va donner.
Thank you. amène à poser une question, de nouveau, là aussi, noir. Alors pourquoi et pour qui peut-on prier?
Moi, je prierai pour tout le monde,
Pour tout le monde.
mais spécialement pour ceux qui sont dans mon périmètre d'action. Pour ceux de ma famille, pour mes amis, pour les gens de l'église, pour mes voisins, voilà, en pensant.
Et pourquoi vous vous limitez? Vous êtes dans une église qui se veut universelle.
Oui, parce que je limite, le mot peut-être est mal choisi, mais c'est pour commencer par s'occuper des gens qui sont sur mon chemin. Je pense que j'ai plus de responsabilités quant aux gens qui sont sur mon chemin quant aux gens qui n'en sont pas. Par exemple, on pourrait prendre l'annuaire téléphonique et puis prier pour les gens de l'annuaire sans les connaître. Je ne dis pas que ça soit à ne pas faire, mais personnellement, je ne le ferai pas.
Je avoue que je n'y ai jamais pensé, mais enfin, oui, évidemment, c'est un peu surprenant. Oui, mais enfin, quand même, souvent, quand on prie pour quelqu'un que l'on ne connaît pas ou qui est loin, on connaît une situation. Effectivement, les gens qui sont malades, les gens qui sont persécutés, les gens qui meurent de faim ou autre chose, à la limite, je pense qu'il y a cette dimension, c'est quand même pas l'annuaire.
On peut prier avec plus d'intelligence.
Voilà, ça, il y a quand même quelque chose et un support qui facilite les choses. Mais alors, en fait, quiconque demande reçoit. Alors, d'accord, mais là aussi, il y a un problème. Parce que je mets toujours à la place de quelqu'un qui a prié et qui n'a pas l'impression d'avoir reçu. Est-ce que là aussi, c'est pas mal interprété, Matthieu 7, 7, 11, hein? Quiconque demande reçoit.
Quand Jésus dit demandez et vous recevrez, la responsabilité qui incombe à la personne qui prie, c'est de demander, c'est pas de recevoir. Donc j'insiste sur ma responsabilité à demander. Je sais que je recevrai, mais je ne sais pas quoi, quand, comment. Donc j'essaye d'être un peu toutes antennes dehors. Mais je crois que là, il y a beaucoup de confusion possible. Donc je n'attache pas trop d'importance à la manière avec laquelle je recevrai. Et par exemple, je n'ai pas de liste de prières où je fais une colonne avec les demandes et une colonne où j'ai une case à cocher avec les
Okay. Bon,
réponses.
ça, je m'en doute.
Mais je connais des gens qui le font,
Et
par
oui, c'est ce
exemple.
que j'allais vous dire, mais je crains que d'autres puissent, pas une colonne, pas un tableau à deux colonnes, mais qui pensent et qui réfléchissent. Moi, je pensais, c'est peut-être ma solution, mais je ne sais pas si elle est bonne, c'est que quiconque demande reçoit. Mais qu'est-ce qu'on demande? C'est peut-être ça aussi. Si je demandais, comme je disais tout à l'heure, la pluie, bon, la pluie qui me viendrait sur mon jardin, pourrait gêner quelqu'un plus, ou je ne sais pas, hein, donc.
Soyons assez basiques. La prière, c'est s'approcher de Dieu.
Oui.
Donc, quand quelqu'un demande qu'il pleuve sur son jardin, il s'approche de Dieu. Donc, ce qu'il peut recevoir comme réponse, c'est la réponse au fait qu'il s'approche de Dieu, même s'il lui demande quelque chose qui n'est pas adéquat. Donc, sa prière sera toujours un succès. C'est toujours un succès de s'approcher de Dieu. En fait, je ne crois pas que la qualité de la demande soit si importante que ça. Je pense que s'approcher de Dieu nous fait toujours rentrer en progrès quant à la qualité de la demande.
Donc c'est chercher Dieu quand même. Je mets tellement une condition. Hein. Chercher Dieu avant ce qu'apporterait la prière.
Voilà.
C'est ce que vous voulez dire.
Mais si cette condition n'est pas remplie, alors si moi je suis un gros égoïste et je ne pense qu'à ma prière, alors je pense à ma prière, mais je m'approche de Dieu. Et en m'approchant de Dieu, logiquement, Dieu devrait me montrer que je suis un gros égoïste. Et c'est là où je progresserai.
Oui, et puis aussi on pourrait comprendre l'amour du Père.
Voilà.
Se réaliser quand même, bon, que je puisse partir en voyage et se rendre compte que c'était peut-être un peu bête comme prière et que je découvre que si Dieu ne me l'a pas accordé, il y avait peut-être autre chose de plus important, peut-être pas matériellement, mais entre la relation de l'enfant et du Père. Alors moi, il y a un autre exemple aussi qui va être quand même un peu, non pas bizarre, c'est la guérison d'un paralysé, qui est un signe aussi de pardon. Donc on se rend compte que Jésus dans une foule, il y a des gens qui ont un paralysé, ils voudraient qu'ils soient vus par Jésus, eh bien ils n'y arrivent pas. Alors ils passent à l'action, ils ont l'idée, et ils montent sur le toit, ils enlèvent les tuiles ou je sais pas quoi, et ils le descendent. Donc je vois que effectivement, là, il y a une action de celui qui veut prier, parce que la demande, elle est, c'est la guérison. Donc là, ben, ils ne sont pas inertes, ils ne sont pas sans rien faire, ils prennent l'initiative de trouver le toit. Le patron de la maison a dû être content, hein, et descendent donc le malade. Donc là, il y a suite, pas de demande. Et le Seigneur voit évidemment que ils ont agi d'eux-mêmes, et elle n'a pas besoin d'être formulée, et il l'accorde, la guérison. Et c'est par exemple. Ses péchés sont pardonnés, évidemment, et il se relèvera, il marchera. Donc parfois peut-être aussi que si la demande dans la deuxième colonne, on coche pas parce que c'est pas exaucé, peut-être c'est parce qu'aussi on ne s'est pas mis en situation, on n'a pas agi. Et qu'il faut peut-être au départ avoir une action, mais peut-être pas toujours physique, je ne veux pas toujours démolir le toit du voisin, hein, mais disons faire quelque chose soi-même, être responsable de soi. Et peut-être que là, Dieu, le Père, le pédagogue, il a bon, ben d'accord.
Oui, je pense qu'on là aussi on ne soupçonne pas la vertu ou la puissance de cette prière pour les autres qui est une vraie bénédiction pour eux. Comme si l'amour que l'on manifeste par la prière pour les autres était quelque chose qui les touche particulièrement, qui les renouvelle, qui les protège, qui les rend sensibles à la volonté de Dieu. Certainement, notre prière a une efficacité. Nous n'en connaissons pas tous les aspects techniques, si vous voulez, mais par contre, on sait bien que cette prière a une réussite particulière. Et donc, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Et on le fait en église, on le fait dans le particulier, et oui, il faut le faire.
Tout à fait, au début, vous dites évidemment que vous priez chez vous, effectivement, on se retire. Et par rapport à la prière collective et communautaire, est-ce que cette prière aurait plus de poids, se disant, seul, j'ai qu'une chance, si on est 300, j'ai davantage de chance? Certainement pas. Je pense que la prière collective, c'est autre chose.
Voilà, elle a le même poids, mais elle a une autre
Dimension.
dimension, une autre réalité. Par exemple, la prière collective, c'est l'affirmation collective de nos liens fraternels en Jésus-Christ. La prière collective, c'est la manifestation collective d'un accord pour quelque chose de collectif. Et donc, la prière collective ne peut pas remplacer la prière individuelle, et la prière individuelle ne peut pas remplacer la prière collective. Puisqu'individuellement, je vais prier pour des choses qui me concernent individuellement, ou je vais prier pour l'Église. Mais quand je vais prier de manière collective pour l'Église, c'est que l'Église vivra collectivement quelque chose qui est collectif. Et si l'Église ne le vit pas, alors il y a un manque réel.
Oui, alors ça dépend de la liturgie, ça, la prière collective, ce sera peut-être un credo, une glorification, une louange à Dieu, et puis après on peut passer peut-être à une prière individuelle, quoique dans certaines liturgies, il y a aussi quand même des prières individuelles, même quand c'est tout le groupe qui est réuni, toute l'assemblée. Donc ça peut être ça, effectivement. Mais enfin, il n'y aura pas un plus si ça se passe à l'église. Donc pas besoin d'aller à l'église pour prier, certains vont vous dire. C'est vrai, mais ça coupe quand même alors de la communauté.
C'est ça.
Hein, donc.
Ça coupe de la communauté et ça ne nous permet pas de mettre en œuvre des prières qui concernent la communauté et qui doivent être faites par la communauté. Ce qui fait que, manifestement, il y a quelque chose qui manque.
Et puis si vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous. Ça compte aussi, vous êtes à l'intérêt de se réunir.
Oui.
Hein, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Et donc, je pense qu'effectivement aussi, est-ce qu'on peut en entendre dire aussi, oui, mais si je prie pour la guérison de ma voisine, c'est gentil, c'est bien, mais j'aurai peut-être moins de résultats que si je prie, par exemple, contre le diable. C'est-à-dire, si par exemple je prie contre le monde invisible qui est la cause de tout le mal et ainsi de suite, il y aurait une hiérarchie.
La prière, c'est un acte d'autorité que l'on prononce au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, quand au nom de Jésus-Christ, quand par la vertu de l'oraison que me donne Jésus-Christ, par la puissance de son nom, par le fait qu'il est d'accord quand je manifeste mon engagement personnel devant Dieu, quand je manifeste au nom de l'Église l'engagement collectif de l'Église devant Dieu, quand je manifeste au nom personnel le fait qu'une personne soit délivrée d'un démon qui la tourmente, la prière de l'exorcisme. Alors, je manifeste l'autorité de Jésus-Christ face au démon, auquel le démon est tenu de se soumettre. Mais c'est certain que dans une situation comme celle-là, je dois être dans un état spirituel que le démon reconnaîtra. Autrement dit, dans une démarche claire devant Dieu qui fait que je dis oui. Hein, je suis moi délégué par l'Esprit de Dieu pour ordonner au démon de faire quelque chose. Et le démon reconnaît cette autorité, il s'y soumet parce que diable ou démon sont tenus d'être soumis à Dieu
Adieu.
et ne peuvent pas faire ce que Dieu ne leur permet pas de faire.
Oui. Alors, autre question, toujours, qu'on peut rencontrer, c'est de dire, bon, moi je ne prie pas, je vais demander à quelqu'un qui est bien placé de prier, soit parce que c'est quelqu'un qui est dévot et que l'on connaît dans son quartier, soit, si c'est des catholiques, aller voir monsieur le curé qui prierait pour vous. Pourquoi on n'a pas besoin d'intermédiaire, je suppose.
Alors, on n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est-à-dire que si cette prière est là pour manifester une grande chaîne de solidarité, c'est très bien. Si c'est une fuite pour ne pas prier soi-même, alors c'est pas bien.
Oui, tu vois, c'est ça. C'est disons,
Hein?
je ne suis pas capable, je m'adresse à un spécialiste.
Et il n'y a pas de spécialiste de la prière. La prière, c'est s'approcher de Dieu, et on est tous appelés à être des femmes et des hommes de prière avec la même simplicité d'approche de Dieu qu'on s'approcherait de quelqu'un pour parler avec liberté.
Alors, prier pour les morts, est-ce que ça existe dans votre église?
Ça n'existe pas, et ça n'existe pas non plus dans la Bible, telle qu'elle a été depuis Jésus-Christ jusqu'au Concile de Trente, hein, donc en 1546-1560. C'est-à-dire que c'est au Concile de Trente que les livres qu'on appelle deutérocanoniques, du deuxième canon du Concile de Trente, dans lequel ces livres-là ont été ajoutés, et la prière pour les morts se trouve dans le deuxième livre de Maccabée, au chapitre 12. Et pour des livres qui n'ont pas été de la Bible pendant 15 siècles. Et autrement dit, dans la Bible, dans le premier canon de la Bible, il n'est jamais question de la prière pour les morts. Les morts sont morts. Hébreux 9, verset 27 nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois et après le jugement. Autrement dit, après la mort, la situation de l'homme ne va pas évoluer. Soit il a mis sa confiance en Dieu, auquel cas il est sauvé, soit il ne l'a pas mise, auquel cas il est perdu. Donc, je ne vois pas dans la Bible qu'il faille prier pour les morts, ni faire de sacrifices particuliers pour les morts.
Est-ce que dans toutes les religions, y a-t-il des prières qui existent dans leur liturgie? Ou il peut y avoir des religions sans manifestation, sans prière?
Alors, toute religion qui est une religion déiste fait des prières,
Obligatoirement,
obligatoirement.
parce que la religion, c'est être relié effectivement
Voilà.
donc à Dieu. Donc ça existe dans toute l'humanité, partout, dans toutes les religions. Alors nous avons dit que prier, c'est être en relation avec Dieu, qu'en fait c'est une émotion essentielle pour le croyant. On a même dit que c'était la prière, la respiration de l'âme. Plusieurs personnes l'ont dit. Donc cette prière est une prière de louange, de reconnaissance, de remerciement, d'adoration, de relation personnelle à Dieu, sacrer l'intimité. Ça peut être une demande. On a vu que Jésus priait. Et il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte et avoir des exemples. Et je vous demanderai cette fois maintenant de conclure.
Moi, je garde pour moi-même que dans la prière, ce qui est très important, c'est la motivation. Et la motivation doit être pure. Autrement dit, je m'approche de Dieu, je m'ouvre à lui, je suis nu face à lui, en quelque sorte. Je suis à son écoute, je suis disponible, je suis. Voilà, j'ai une motivation. Et. Dans ce temps de prière, mes motivations sont mises à nu. même. Autrement dit, si je viens pour prier avec de mauvaises motivations, Seigneur, venge-moi de mon frère, là, c'est ma motivation justement qui va venir à nu, et la prière est un moment qui est important dans lequel je vais prendre conscience des choses. L'important, c'est ma motivation. L'Esprit de Dieu va survenir justement pour montrer quelle est ma motivation et comment ces choses peuvent se faire. Ce qui fait que quand je prie, il n'y a pas d'obstacle autre que celui de ma propre bêtise. Si je suis dans une ouverture à Dieu, alors il n'y a pas d'obstacle, en fait. Par
Mais
contre,
l'esprit repose sur vous.
voilà, et doit reposer sur tout chrétien, tout croyant qui le fait de manière simple. Autrement dit, je peux toujours prier, je peux toujours m'approcher de Dieu, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que c'est une respiration de l'âme, et que la prière est une condition sine qua non de toute œuvre la plus simple possible.